Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité. Ah oui.
Ça fait un choc.
Alors donc, c'est avec cette salutation de l'Église ancienne que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce temple protestant de l'Église, protestante unie à l'Oratoire du Louvre, à l'occasion de la fête de Pâques. Ce culte est placé sous le signe de la résurrection de Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du passage de la mort à la vie.
Cette fête se veut être un signe d'espérance au sein de notre monde bouleversé. Et dans la nuit du doute et de la mort, elle est une lumière de foi, d'espérance et d'amour.
Bienvenue à celles et ceux qui franchissent le seuil de ce temple, peut-être pour la première fois.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce culte par le biais d'Internet, des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres.
Bienvenue à Camille Thévenot pour sa participation musicale au violon et à Sarah Kim pour sa participation musicale à l'orgue. Elles nous accompagnent toutes les deux aujourd'hui musicalement. Nous avons aussi une pensée fraternelle, interreligieuse et œcuménique. Catholiques et protestants célèbrent aujourd'hui la fête de Pâques. La Pâque orthodoxe sera célébrée le 24 avril selon un calendrier légèrement différent.
La fête de la Pâque juive commémorant la sortie d'Égypte tombe cette année du 15 au 23 avril. Elle coïncide pendant une semaine avec le jeûne du Ramadan dans lequel sont entrés les musulmans depuis le 2 avril et qui se termine le 2 mai.
Cette coïncidence des célébrations des trois religions monothéistes est inhabituelle car les dates changent d'année en année, en fonction du calendrier lunaire ou du calendrier solaire. Mais cette coïncidence nous rappelle que nous sommes frères et sœurs en humanité, avec cette vocation d'œuvrer ensemble pour le bien et le vivre ensemble. Prions. Dieu, Seigneur, éternel, quel que soit le nom que nous te donnions, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux, sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Nous prendrons, pour ouvrir ce culte, la liste des répons qui se trouvent au début du psautier français. Ce sont les répons de Pâques. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Nous chanterons debout selon notre tradition.
Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse tout.
qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle s'élève sur toute la terre comme une flamme dans la nuit, et qu'elle illumine la vie de tous les hommes. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle soit distribuée à toute la terre comme du pain, qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains. Qu'éclate la joie de Pâques, qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre, comme un chant d'allégresse, comme la bonne nouvelle qui redonne espérance à toutes et à tous. Christ est ressuscité. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant dans le recueil Louange et prière le chant du numéro 144 dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Louange et prière, cantique 144. Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu selon le livre de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
Unis et faites
Prions ensemble. Éternel, comment te dire ce qui nous manque ? Quelle est cette espérance qui nous manque ? Notre âme est si vaste. Ainsi, son exigence est immense. Il ne lui faut pas moins que toi, Éternel. Notre plus grande erreur, c'est de croire qu'il ne nous manque jamais qu'une chose, juste une petite chose pour être heureux, un peu d'argent, un avancement, un peu de chance, ou que cette maladie soit guérie, que cette attente finisse, que ce mauvais moment passe. Mais alors, Éternel, nous ne serons jamais heureux, car il y aura une autre maladie, une autre attente, une autre envie, une autre solitude. Éternel, comment te dire que c'est toi qui nous manques ? Ou mieux encore, c'est nous qui te manquons. En prendre conscience, c'est déjà être sur le chemin du bonheur. Et c'est tant mieux. Parce qu'il nous faut être heureux ici et maintenant. Ou bien, nous ne le serons jamais. Parce que Pâques, c'est ici et maintenant. Tout simplement. Amen. Accueillir la parole de grâce de la part du Seigneur, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, mon ami, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus le Christ. Le Seigneur Jésus t'arrache à la nuit d'une vie pour rien. Il t'offre un lendemain. Ouvre-toi à son pardon, il t'offrira des gestes féconds. Sa présence à tes côtés, son pain à partager. Alors, chantons à Dieu notre reconnaissance.
Je ne craindrai désormais aucun pouvoir de ce monde.
Nous affirmons notre foi avec un texte que j'emprunte à ma consœur Béatrice Cléromazir. Je crois en Dieu, sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie, il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin. Un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu, il a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare. Il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ses paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Cependant, Pierre se leva. Il courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Éternel, merci pour ta parole qui nous rejoint aujourd'hui là où nous en sommes. Permets qu'elle continue de faire son chemin de vie en chacun de nous. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite maintenant à prendre le cantique numéro 146. 146, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à vous lever. Place. Prions. Éternel, accorde-moi le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de l'absence ou du monologue solitaire, mais celui de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit ou du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance de Pâques. Celui qui écoute le murmure de ton esprit, qui éclaire pour nous ta parole, Amen. Amis, frères et sœurs, nous sommes à nouveau réunis en ce dimanche pour célébrer la fête de Pâques. Dans quel état intérieur sommes-nous? Quel sentiment nous traverse à l'écoute de cet évangile de Luc que nous venons d'entendre? Un sentiment de lassitude? Un sentiment de découragement? Un sentiment d'indifférence, un sentiment d'incrédulité que l'on n'ose pas s'avouer. Chaque année, à peu près à la même époque, surgissent ces textes d'évangile qui gardent en eux un parfum extraordinaire de miracle, alors qu'on voudrait seulement quelque chose de tangible à se mettre sous la dent. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces récits complètement déconnectés de la réalité qui ne parlent peut-être plus à grand monde. Parce qu'au fond, rien ne change. La mort est toujours là, avec son cortège de souffrance, d'injustice, de solitude. Eh bien justement, parce que rien ne change, et l'actualité est là pour nous le redire. Il y a une parole qui fait éruption. Une parole qui passe les siècles et qui résiste. Une parole qui titille jusqu'à l'agacement peut-être notre rationalité, notre intellect, notre désir de tout comprendre et de tout expliquer. Et cette parole, eh bien, c'est l'évangile de Pâques. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Pourtant, s'il y en a bien quelques-unes qui savent, ce sont les femmes. Elles savent parfaitement où le corps de Jésus a été déposé, vendredi en fin d'après-midi. Elles y étaient. Il est là, dans ce tombeau. D'ailleurs, c'est là qu'elles se rendent de grand matin en ce dimanche, en ce premier jour de la semaine. Elles savent bien, parce que déjà vendredi, avant que ne commence le grand Shabbat, celui de la fête de la Pâque, elles ont tout préparé. Les aromates, les parfums, tout est prêt. Elles savent exactement ce qu'il faut faire parce que c'est leur affaire. Elles savent soigner et embaumer les corps. Elles sont les gardiennes des rituels funèbres. Sauf que cette fois-ci, leur peine est peut-être encore plus grande. Et leur fatigue aussi, à mon avis, parce qu'elles n'ont pas beaucoup dormi depuis vendredi, anéanties par leur chagrin. Avec la mort de Jésus disparaît leur espérance d'un monde nouveau. Quelque part encore, la justice, l'injustice et le mal ont gagné. Alors elles vont s'occuper du corps de Jésus, parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Fidèle parmi les fidèles. Anonymes au début du texte, ce sont les femmes de l'ombre qui ont marché avec Jésus sur les routes de Galilée. Elles ont été les témoins discrets, pratiquement invisibles des paroles et des gestes de guérison qu'il a prodigués à certaines d'entre elles. D'ailleurs, l'une d'elles ne s'est pas trompée. En faisant une incursion remarquée dans la maison d'un certain Simon le lépreux et en versant sur la tête et les pieds de Jésus un parfum de grand prix, au grand scandale des hommes présents dans la pièce, témoins de ce gaspillage innommable. Mais toutes avaient déjà pu percevoir quelque chose de nouveau en sa présence. Quelque chose qui s'appelle un évangile inouï. Et puisqu'elles l'ont vu ensuite être arrêtée, crucifiée, elles ont tout vécu avec lui, y compris le plus horrible, le plus insoutenable. Alors, fidèles parmi les fidèles du vivant de Jésus, elles le sont encore à sa mort. Il leur reste le rituel funèbre à accomplir sur le corps de leur maître, de leur rabbi. Les femmes tiennent leur place, rien n'a changé. Interrompues de fait par le début du Shabbat, car ce sont aussi des fidèles de la loi de Moïse, c'est d'ailleurs le dernier mot du chapitre 23, elles reprennent donc le chemin du cimetière pour achever ce qu'elles ont commencé. Elles lui doivent bien cela. Elles se rendent au tombeau sans penser une seconde que Jésus pouvait être ressuscité, parce qu'en fait, elles ont tout oublié. Dans le récit qu'en fait Luc l'évangéliste, les femmes n'ont pas le temps de se poser la question de savoir qui va leur rouler la pierre devant le tombeau. Quand elles arrivent sur le lieu de la sépulture, la pierre est déjà roulée. Le tombeau est déjà ouvert. Et cette phrase « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts ?» Il n'est pas ici. Et voilà la grande nouveauté de l'évangile. Voici en quelques mots tout simples, tout ordinaires, ce qui va changer la vie de ces femmes et qui va aussi changer la foi, la façon de croire en Dieu de nombreuses personnes après elles. Deux messagers leur délivrent les paroles qui vont les faire retourner à la vie. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé. C'est la phrase pour dire la résurrection. Et ce mot est important. Il s'est réveillé. Et c'est le moment de se rappeler que le verbe en grec que nous traduisons par résurrection, c'est d'abord un verbe qui veut dire se réveiller. Se lever, être debout, des notions qui caractérisent le concret de la vie quotidienne, des gestes que nous faisons tous les jours et tout le temps, des images où ce sont la vie qui l'emporte. Et le messager continue, « Rappelez-vous comment il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Rappelez-vous, souvenez-vous. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Souvenez-vous de ses paroles. Faites appel à votre mémoire. Et vous allez comprendre maintenant un peu mieux ce qu'il a dit avant. Et alors, elles se souviennent. Mais oui. Et en se souvenant, elles se réveillent. Elles reviennent vers les disciples. Et revenir vers eux, c'est tourner le dos à la tombe, c'est tourner le dos à la mort, c'est abandonner tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas terminé, les gestes funéraires, mais c'est retourner vers la vie, et c'est là la mission des femmes, dont on apprend justement les noms à ce moment-là. Elles quittent le tombeau. Elles n'ont plus rien à y faire. L'essentiel est ailleurs. Elles ne le savent pas encore, mais au fond, elles sont ressuscitées, elles aussi. Seuls les disciples sont encore dans le noir. Ils sont encore dans la nuit. Ils ne sont pas encore sortis de grand matin. Alors, ce qu'ils entendent de la part des femmes leur semble, selon les traductions, des inepties, des niaiseries, voire du délire. Sans doute pensent-ils que le chagrin égare ces pauvres femmes. Ils ne les crurent pas. Sauf Pierre, tout de même, qui court à son tour vers le tombeau. Il ne voit que les bandelettes, rien d'autre, personne d'autre. Alors là, quand même, il réfléchit. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, c'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent en ce jour de Pâques. C'est vraiment mince. Il nous faut faire le deuil d'une explication rationnelle de la résurrection. Les femmes n'ont pas été crues, en plus, donc c'est vrai que leurs paroles ne comptaient pas à l'époque. Mais en retournant dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu, elles ont permis que les autres, à commencer par Pierre, aillent vérifier par eux-mêmes qu'est-ce que tout cela pouvait bien dire, pouvait signifier. Alors, ce matin, posons-nous la question. Nous qui sommes dans ce temple, en ce matin de Pâques, qu'est-ce que cela signifie pour nous d'être ici, pour cette fête justement? Parce que quand même, Pâques c'est une fête sans tapage, ça se remarque à peine. Assez inaperçu, pastel, même chez les commerçants, bon d'accord, exception faite des chocolatiers, mais quand même. Et chaque année, nous lisons ce texte de l'évangile de la résurrection, il y en a même qui essayent de prêcher. Chaque fois, c'est à nous de l'actualiser pour notre vie personnelle. C'est nous qui nous retrouvons avec les femmes, puis avec les pierres, devant ce fameux tombeau vide. Point d'interrogation. Le mystère reste entier. Comment est-ce que cela résonne en nous? Qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie de tous les jours? Alors, l'Évangile nous annonce que Jésus est passé de la mort à la vie. L'Église dit qu'en Christ, la mort est vaincue. On vient de le chanter, là, deux fois de suite. Cela peut nous faire espérer en une vie après la mort. Pourquoi pas? C'est une espérance très importante pour certains. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir répondre ici et maintenant à cette question des messagers. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Alors, si nous nous souvenons de Pâques comme un événement du passé, une sorte de happy end qui viendrait conjurer l'horreur de la mort du Vendredi Saint, eh bien, mes amis, nous passons à côté de la bonne nouvelle. Si nous sommes dans ce temple ce matin pour nous tourner vers le passé, si beau soit-il, mais nous avons tout faux. Parce que la fête de Pâques résiste justement à tout cela. Parce que l'Évangile se conjugue au présent, un peu au futur, mais d'abord au présent. Et c'est cela que je veux dire quand l'Évangile nous parle de ressusciter avant de mourir, et non pas l'inverse. C'est ce qui se passe pour les femmes de notre récit. Elles reviennent à la vie ici et maintenant parce qu'elles retrouvent l'espace d'un instant, la foi en l'avenir. Elles retrouvent l'optimisme de croire que le meilleur est pour demain, non seulement pour demain, mais qu'il est même pour ici et maintenant. Au fond, l'Évangile nous parle tout le temps d'une vie à vivre avant la mort. Mais de quelle vie s'agit-il ? Parce que celle que l'on connaît n'est pas forcément drôle ou facile à vivre, justement. Nombreux sont celles et ceux qui vivent écrasés par le poids de la faute ou de la culpabilité, ou qui vivent rongés par la honte ou l'amertume, ou qui restent encore paralysés par la haine, la rancune ou les préjugés. Nombreux sont celles et ceux qui vivent pour le paraître, pour avoir, pour consommer. Nombreux aussi sont celles et ceux qui vivent dans le deuil des êtres, des choses, du passé ressassé. Nombreux sont ceux aussi qui vivent sans foi, sans amour, sans espérance. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la mort. Et cela nous arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Cela arrive chaque fois que la prédication du Christ reste lettre morte. Chaque fois que nous ne pouvons plus croire, nous n'arrivons plus à croire en la valeur de l'amour ou de la justice. Chaque fois que nous baissons les bras à force de découragement, et les raisons ne manquent pas. Et l'Évangile de ce matin nous renvoie à la vie contre toute attente. Et cela aussi, nous l'expérimentons plus souvent qu'on ne l'imagine. Dans la nuit la plus noire, il y a une lueur, si infime soit-elle, un souffle ténu, si léger soit-il, un fil de soie, si fin qu'on ne le voit pas, mais si solide pourtant. Chacun découvre en lui et autour de lui des ressorts inattendus permettant, par une inventivité, une créativité extraordinaire, des gestes de solidarité, d'accueil pour aider, soigner, protéger, pour résister pacifiquement, avec détermination contre tout ce qui défigure l'être humain et qui peuvent faire fléchir les dictatures les plus absurdes, et elles ne sont pas forcément politiques. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ailleurs, il est toujours ailleurs. Parce qu'on ne peut pas enfermer la prédication du Christ dans un dogme ou une définition ou une explication. Il sera toujours au-delà de ce que nous pourrons en dire, et c'est tant mieux. Il n'est pas ici, dans cette tombe. Au fond, il n'est dans aucune tombe, parce qu'il continue d'être avec nous tous les jours dans notre quotidien, et il nous aide par son amour, sa grâce, sa présence invisible à réinventer notre histoire humaine toujours vers plus de beauté et de confiance. La fête de Pâques nous invite à sortir de nos vieilles histoires et nous donne l'envie d'écrire la nôtre en toute liberté, parce que c'est un chemin de vie avant tout. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, ici et maintenant. Les actualités nous rejoignent dans leur violence quotidienne. Les violences extérieures nous rejoignent aussi dans notre quotidien, pas facile à vivre, comme nous le disions tout à l'heure. Alors je voudrais relire avec vous cet éditorial écrit par Abigail Bassac, il y a déjà quelques années, pas si longtemps. Un éditorial de la revue Évangile et Liberté, elle écrit ceci. Nous aussi, nous avons été crucifiés. Oh, certes, ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas sur une croix dans les années 30 en Judée. Ce n'était pas au vu et au su de centaines de passants. Nous ne sommes pas littéralement morts. Mais nous avons tout de même été crucifiés par des paroles de mort, par le rejet, par l'indifférence, par la trahison, le mensonge, l'injustice, l'incompréhension, la violence physique, la chosification, l'arrachement, la solitude et tant de souffrances encore. Oui, nous avons été crucifiés et peut-être n'y avait-il personne pour prendre soin de nous au pied de notre croix. Nous avons alors ressenti l'absurde, le non-sens. C'était notre vendredi saint à nous. Puis est venu notre samedi de vide. Combien de temps a-t-il duré ? Quelques heures ? Quelques jours ? Des mois, voire des années pour ceux d'entre nous qui ont connu les plus lourdes épreuves ? Oui, nous avons été crucifiés, mais l'histoire, notre histoire, ne s'arrête pas à ce samedi. La mort n'aura pas le dernier mot. Nous aussi, nous serons ressuscités quand nous entendrons une parole de vie à laquelle nous accorderons du crédit, de la foi. Alors, nous serons ressuscités. Quand nous cesserons de nous débattre avec la mort et quand nous nous abandonnerons entre les mains de la vie, alors nous serons ressuscités. Quand enfin nous croirons la promesse qui nous est faite, que les textes bibliques charrient et tentent de communiquer, quand quelqu'un nous l'aura prêché, qu'il soit un pasteur en chair ou un ami autour de la table d'un dîner, alors nous serons ressuscités. Et ce sera dimanche. Ce sera le printemps à nouveau, la vie aura retrouvé de la saveur, du sens, de la chaleur. Les jours seront plus longs que toutes nos nuits. Nous aurons été ressuscités. Et nous vivrons pour ce à quoi nous avons été appelés, pour la joie et pour la vie. Joyeuse Pâques. Thank you. Un énorme merci à Camille Thévenot pour sa participation au violon. Merci du fond du cœur. Nous allons continuer notre culte en prenant maintenant le chant du psaume. Ça me manque, c'est pour ça. Du cantique 147 dans le Louange et prière. Cantique 147, strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous lever.
Alléluia, l'enfer succombe. Alléluia, alléluia. Plein de gloire et de majesté, Jésus triomphe de la tombe. Alléluia, alléluia, alléluia.
Prenez place. Et je passe la parole maintenant à la présidente de notre conseil presbytéral, Aurore Saglio-Thébeau.
Merci Agnès. Il faut de la vie et de la joie. Il y a 2 ans, souvenez-vous, nous étions tous confinés. On n'avait pas pu se réunir ici, c'était assez triste. Nous avions nos pasteurs ici, filmée. Nous étions quatre dans le temple, quatre ou cinq. Et puis il y avait plein de dessins. On essayait de rire et il y avait un dessin qui était la pierre qui ne roulait pas, avec une bulle qui marquait dessus « Je veux sortir, je veux sortir ». Souvenez-vous de cette bulle. C'était il y a 2 ans, on essayait de mettre un peu de joie dans Pâques. L'année dernière, nous avions 1 banc sur 2, nous avions dû monter dans les tribunes. Nous avons encore aujourd'hui dans les tribunes beaucoup de monde, mais nous n'avions pas pu partager la scène. Et cette année, nous allons pouvoir partager la scène. Malheureusement, pas comme d'habitude, puisque le Covid-19 est toujours là, et c'est pour ça que les psaumes manquent à Agnès, c'est que le chœur n'est pas là aujourd'hui, parce que malheureusement, le chef de chœur est positif. C'est un moyen, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'être positif, en ce moment il faut être négatif, donc voilà. Donc, le chef de chœur n'est pas parmi nous, donc nous n'avons pas le chœur. Et alors, j'espère que vous n'allez pas croire la femme qui vous parle, parce que nous risquons de manquer de petits verres. Mais comme nous sommes dans la joie et la bonne humeur, et que la scène c'est un partage, si les pasteurs ont une autre idée tout à l'heure, n'hésitez pas, mais nous pouvons proposer que les couples communient avec un seul verre, par exemple, que les gens venus ensemble, parce que nous sommes extrêmement nombreux aujourd'hui, nous n'avons même plus de livret et de cantique, hein. Je crois que ça fait très très longtemps que ça n'est pas arrivé. Donc merci tous d'être là. Trouvez une solution sur la scène, s'il vous plaît, parce que j'en ai mal au ventre. On risque de ne pas avoir assez de verre. Voilà. Mais on aura assez de pain, parce que la multiplication des pains, c'est facile, on y arrive. Sur les annonces de la semaine, je vous propose simplement de prendre à la sortie, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que beaucoup d'entre vous ne viennent qu'une fois par an, quasiment, donc la revue L'Oratoire du Louvre, La Feuille Rose, elle est à votre disposition, vous aurez toutes nos activités, et nous en avons vraiment beaucoup. Également dans vos livrets, pour ceux qui l'ont eu, nous avons une enveloppe offrande. Alors il y a une grande discussion que nous avons eue il y a quelques années au Conseil presbytéral, parce que nous essayons de revenir sur l'équilibre financier. Parce que chaque année, nous perdions à peu près 150 000 euros. Donc au bout d'un moment, le Conseil presbytéral s'est dit, pensant à la résurrection, pourquoi trouver l'argent parmi les morts ? Trouvons l'argent parmi les vivants. Nous avons des legs, bien entendu, de temps en temps, et nous remercions pour la vie des testateurs. Mais s'il vous plaît, si nous pouvions trouver l'argent parmi les vivants, nous pourrions être sur l'équilibre financier, ce que nous pensons être en 2022. Donc, nous allons lancer l'offrande. J'en tremble. Pour ceux qui ont la chance de payer des impôts, vous pouvez donner 3 fois plus, puisque vous savez que l'impôt est déductible, enfin les dons sont déductibles. À ce moment-là, vous mettez surtout votre nom, prénom, adresse, pour notre pasteur, pour envoyer un reçu fiscal. Pour ceux qui ne peuvent pas en profiter, de toute façon, il existe le don joyeux. Dans tous les cas, passez d'excellentes Pâques. Et dernier petit mot, nous aurons tous, du moins les enfants, j'espère qu'on en a prévu assez, je pense que oui, quelque chose à vous mettre sous la dent à la sortie du culte. Merci infiniment et bon dimanche. Donc c'est le temps de l'offrande.
Unissons-nous dans la liturgie de partage de la Sainte Cène. Louons Dieu. Nous te remercions de nous inviter à cette table que nous avons préparée mais que tu présides. Nous te louons de nous accueillir à ce repas que tu as voulu pour nous. Nous te bénissons de nous rassembler avant de nous envoyer et de nous disperser dans le monde. Avec ce pain et ce vin que nous allons partager ensemble, c'est ton amour et le don de ta vie que nous allons recevoir. Avec ce pain et ce vin, c'est une invitation aux retrouvailles pour mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Aussi, avec tous tes enfants, celles et ceux que tu as déjà appelés ou que tu appelleras encore, qui vivent ici ou qui vivent au loin, nous célébrons ton nom et nous te chantons.
Dans la scène, le Christ est l'invité qui frappe pour que nous lui ouvrions notre porte. C'est pourtant lui qui préside le repas. Nous nous souvenons que la nuit où il fut livré, il a pris le pain, il a rendu grâce. Il l'a rompu et il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez et mangez ». Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons qu'il a fait de même avec la coupe. Il l'a élevée en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, faites ceci en mémoire de moi. »
Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, il y a des paroles et des gestes qu'on n'oublie pas. Ils résonnent et se ressentent comme une présence invisible, une confiance indicible, un souffle ténu. Nous te prions pour que ces paroles et ces gestes continuent à avoir du sens pour nos vies aujourd'hui. S'il est vrai que tout évolue et tout passe, rappelle-nous, Éternel, que le repas partagé, le vin offert, le pain rompu restent toujours des signes de la rencontre et de la communion des uns envers les autres et de nous tous envers Jésus, le Christ, et envers toi, ô Éternel. Ils accompagnent la mise en commun de nos joies et de nos peines. Ils soutiennent notre espérance. Ils sont le témoignage de notre vie ensemble et de l'accueil de l'autre dans sa différence et son originalité. Nous comprenons que dans ce geste que Jésus a laissé à ses disciples, prolonge le sens de notre existence, la raison de nos luttes et de nos engagements. Ce geste que nous transmettons de génération en génération est un témoignage de ce que nous avons reçu et que nous ne pouvons garder pour nous. Christ est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. dans le seul but que vivre ensemble en famille, en église, en société soit toujours possible malgré les conflits, les guerres et les préjugés. Éternel Dieu de la vie, permet qu'aujourd'hui encore, ce geste demeure toujours un signe du bonheur partagé, lié à la découverte personnelle de ton amour sans condition, manifesté dans le Christ Jésus, qui a brisé les liens de toute mort, de tout mal et de toute solitude, de tout esclavage. Même en restant à nos places, nos cœurs sont rassemblés autour de la table dite de communion. Et au moment où nous nous approcherons de cette table, eh bien, rappelle-nous que ce mot signifie non seulement partager avec l'autre le peu qu'on a, mais partager d'abord ce que nous sommes. Éternel, dans le morceau de pain que je lui donnerai, je lui fais une place à mes côtés. Je lui manifeste tout simplement qu'il est mon frère, ma sœur, non seulement en humanité, mais aussi dans la foi intime qui nous unit. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ et en humanité comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret, le profond de nos cœurs. Remplis nos cœurs de ta paix, afin que nous devenions les témoins libres et joyeux que tu espères. Ensemble, nous te disons maintenant avec confiance la prière que Jésus a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez. Éternel, nous te disons notre reconnaissance pour ce pain et ce vin partagés. Ce repas est devenu nourriture pour notre foi, lumière dans nos nuits, force pour nos combats, sel dans notre vie. Accorde-nous maintenant d'inscrire dans notre vie la paix et la louange en vivant l'espérance de ta résurrection. Que nos vies soient un reflet de ton amour. Amen. Amis, frères et sœurs, que l'amour de Dieu manifeste en Christ notre lumière, qu'il nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Allez dans l'amour de votre Seigneur. Amen. Et nous chanterons maintenant le cantique numéro 150, les strophes 1, 2 et 3.